Bonjour à toutes, bonjour à tous. Si 69 est une année érotique, 68 est une année philosophique. Les philosophes, eux aussi, connaissent la crise dans l'université, dans la rue et dans la pensée. Car oui, mai 68 constitue un tournant pour la philosophie aussi. Michel Foucault, Gilles Deleuze, Jean-Paul Sartre, Raymond Aron, Louis Althusser, comment conçoivent-ils leur rôle et leur métier de philosophe quand dehors, l'affrontement a lieu ? Entre les pavés et De Gaulle, quel rôle pour les philosophes en mai 68 ?
C'est l'affrontement.
Tout le monde comprend évidemment quelle est la portée des actuels événements universitaires puis sociaux. On y voit tous les signes qui démontrent la nécessité d'une mutation de notre société, mutation qui doit comporter la participation plus effective de chacun à la marche et aux résultats de l'activité qui le concerne directement.
Bonjour Frédéric Worms.
Bonjour Adèle Van Rijp.
Bienvenue sur le chemin de la philosophie.
Merci de m'y avoir invité.
Les auditeurs de France Culture vous connaissent parce que vous animez une émission sur cette même chaîne, Matière à penser. D'ailleurs, on vous entendra ce soir à 22h15 avec Daniel Cohn-Bendit.
Bah oui, moi aussi,
spécial.
J'ai envie de comprendre ce qui s'est passé en mai 68, comme vous, comme tout le monde.
Bah oui, donc vous allez nous y aider aujourd'hui du point de vue de la philosophie. Vous êtes professeur de philosophie à l'École Normale Supérieure. Nous sommes en train d'écouter MC5, You Kick Out the Jams, on va essayer de tout envoyer balader. C'est pas que dans le rock que ça se passe finalement, parce qu'en philosophie aussi a lieu ce qu'on pourrait appeler une sorte de crise, en tout cas un changement radical en mai 68.
Ce qui est amusant et important, c'est que mai 68 est associé à la philosophie française dans toute sa force, dans toute son originalité. On pourrait presque dire que c'est indissociable aux yeux du monde. Il y a mai 68 d'un côté, et puis il y a la French Theory de l'autre. Mmh. Il y a à la fois Sartre sur une poubelle à Billancourt, il y a Deleuze et Foucault qui révolutionnent la philosophie. Il y a le marxisme qui prend différentes formes, avec le marxisme théorique, très proche du structuralisme que défend Louis Althusser dans un des bastions de mai 68, qui est justement l'École Normale. Et puis, il y a les polémiques, les critiques autour de tout ça. Mais en même temps, c'est presque la même énigme. C'est-à-dire à la fois un événement qui est relié à des tas de choses, des faits sociaux, des théories. C'est très profondément relié ou explicable ou interprétable par la philosophie. Et en même temps, c'est une surprise pour la philosophie. Donc il y a une philosophie juste avant, une philosophie qui va interpréter après. Mmh. Et puis tout se passe comme si l'événement quand même les désarçonnait tous, les mettait tous un peu en état d'étonnement et les amenait à repenser leur philosophie. Donc il y a une sorte de crise dans la crise, d'événements dans une philosophie qui elle-même était déjà en rupture avec la philosophie d'avant, qui était en train de se constituer. Elle est prise à froid par l'événement quand même.
Alors qu'est-ce que c'est la philosophie d'avant ? C'est surtout à ce moment-là en France, c'est ce qu'on appelle le structuralisme ?
La philosophie qui commençait à prendre forme, disons, depuis le début des années 60 et qui ira encore évidemment au-delà de 68, c'est en effet le structuralisme, c'est-à-dire une philosophie qui finalement justement n'est pas fascinée par l'événement. n'est pas fasciné par les pensées conscientes des individus, par l'intention de changer le monde, mais explique plutôt sous nos intentions conscientes les structures sous-jacentes, en s'inspirant de la linguistique structurale, qui dit que dans le langage, ce qui est important, c'est pas ce que vous pensez vouloir dire, la manière dont le mot se rapporte au monde, mais la structure du langage comme système de signes, qui explique pourquoi nous utilisons tel mot plutôt que tel autre. Et bien dans l'histoire, c'est pareil. Louis Althusser, que je viens d'évoquer, dont on reparlera peut-être, montre que, au fond, c'est de même que nous croyons que le soleil tourne autour de la Terre, en fait, c'est la Terre qui tourne autour du soleil, nous croyons que nous avons des pensées, en fait, ce sont des structures sous-jacentes, des structures théoriques, un marxisme scientifique qui explique nos pensées, et l'événement, en principe, n'aboutit que quand la structure est saturée, quand ça explose, et personne n'a vu venir l'événement, y compris et peut-être surtout pas les structuralistes.
Mais c'est-à-dire qu'il n'y a pas de place pour l'individu dans le structuralisme.
L'individu est un petit peu un effet de surface, comme chez Lévi-Strauss qui est le fondateur du structuralisme, c'est-à-dire de l'importation du modèle structural dans les sciences de l'homme, pour comprendre l'homme. Et Lévi-Strauss prend l'exemple un peu scientifique de la saveur d'une bière, par exemple, une saveur, un goût quel qu'il soit. Mais en fait, cette saveur, c'est un effet subjectif, en surface, une sorte de mousse. Et puis en dessous, qu'est-ce qu'il y a ? Il y a des molécules, il y a des structures, et le chimiste explique pourquoi nous ressentons telle saveur. Bien, l'anthropologue fait un peu pareil. Nous avons l'impression d'être dans un événement historique, mais il faut comprendre les structures sous-jacentes qui expliquent en profondeur cet événement historique. Et le rôle de l'anthropologue, c'est de dégager ces structures, de les comparer aussi. Qu'est-ce qui fait la structure de la culture occidentale par opposition aux mythes, aux structures des autres cultures, et au fond d'expliquer ces événements de surface par des systèmes sous-jacents qui ne sont pas pour autant exactement comme des molécules. C'est-à-dire que pour Lévi-Strauss, il y a quand même une différence entre la culture et la nature, parce que ce sont des faits quand même créés par l'homme. Il y a un objet propre des sciences humaines.
Vous dites que c'est ce structuralisme qui est de mise au moment où mai 68 éclate, mais la façon que vous avez d'en parler montre à quel point ça s'oppose en tout point peut-être au Sartre de l'après-guerre, justement une pensée de l'existentialisme où l'homme, et justement c'est une pensée de l'homme singulier qui n'a pas de sens prédonné dans son existence, qui doit tout faire pour le trouver. Il y avait une réaction quand même, le structuralisme est en partie une réaction à l'existentialisme sartrien après la Seconde Guerre mondiale.
Oui, c'est pourquoi il y a une sorte d'effet de décalage. On associe mai 68 à la philosophie française, et je crois vraiment qu'on a raison. Hein. C'est un moment important pour la philosophie et aussi par la philosophie. C'est-à-dire que mai 68, sur les murs de Paris, dans l'interprétation dans les journaux, est saturé par les philosophes. Les mots des philosophes apparaissent sur les murs et d'autres
saturés philosophes... vraiment, ils sont présents à ce point.
Quand même très présents. Moi, je prends parfois l'exemple de l'imagination au pouvoir. C'est un slogan totalement sartrien. Ouais. Parce que c'est l'imagination chez Sartre qui prouve la liberté humaine, précisément. L'homme n'est pas une chose, mais une pensée libre. Qu'est-ce qui le prouve ? C'est l'imaginaire. Et l'imaginaire, c'est un arrachement au réel qui prouve la capacité de l'homme à être autre chose qu'une chose, même une chose sociale, même une chose du monde. Et c'est vrai, il suffit de rappeler ça pour montrer que Sartre, en effet, est au départ un penseur de la liberté, de l'existence, qui s'arrache au monde. Alors Sartre, effectivement, le structuralisme va rompre avec Sartre dès le début des années 60, ce qui prouve aussi que mai 68 est un combat entre philosophes,
c'est ça.
Même parmi ceux qui sont révolutionnaires. Il y a ceux qui critiquent de l'extérieur, qui sont au fond des adversaires politiques, et puis même dans une sorte de solidarité politique, il y a encore du débat philosophique. Il ne faut pas figer la philosophie française, dite française, entre guillemets. Elle est faite de diversité, de tension, c'est ça sa force. Et au début des années 60, il y a donc cette rupture, le structuralisme, qui explique par des structures sous-jacentes, et Sartre qui croit à la liberté. Mais il faut rappeler aussi que Sartre avait essayé de concilier les deux. En 1960, dans sa critique de la raison dialectique, il avait essayé de concilier la liberté humaine et les structures économiques, l'existentialisme et le marxisme, dont il avait dit qu'il était la philosophie indépassable de notre temps. Donc l'imagination au pouvoir, ça veut à la fois dire la liberté, mais en même temps, au pouvoir, le pouvoir, ça va être le concept clé de Foucault. Le pouvoir, ça va être aussi, finalement, l'imagination face au réel. Est-ce que l'imagination est capable de se concilier avec les structures économiques profondes ? Et au fond, c'est pas si simple. Mais oui, il y a un slogan sartrien, il y a les débats philosophiques qui continuent. Ça n'est pas un mot d'ordre unique et simple.
On va prendre le temps ensemble hein, d'évoquer ces différentes figures. Sartre, on va le retrouver, Foucault et d'autres encore que je ne nomme pas, qui seront des surprises de fin d'émission. On va commencer en écoutant la voix de Louis Althusser. Mais avant cela, vous avez dit, Frédéric Worms, qu'il y avait une grande imprégnation philosophique dans Mai 68, à travers les slogans notamment. Ça peut paraître surprenant aujourd'hui, où on vit des émeutes qui, toute proportion gardée, ont quand même lieu, où les phrases de philosophes ne sont pas écrites sur les murs. Comment vous expliquez ça ? C'était davantage lu à l'époque ou davantage investi dans les manifestations étudiantes et ouvrières ?
Oui, je pense que à la fois, il y avait ce prestige des philosophes, il y avait une convergence un peu théorique autour du marxisme, il y avait une imprégnation lente. L'imagination au pouvoir, personne peut-être n'avait conscience de cette référence sartrienne, mais c'était une imprégnation depuis L'être et le néant de 1943. Il y a une sorte de pratique de philosophie de la liberté qui finit par éclater. Aujourd'hui, peut-être que la philosophie a un peu éclaté aussi. Donc on la voit moins. Je pense qu'il y a des thèmes communs malgré tout. Je dirais pas forcément dans telle ou telle manifestation aujourd'hui, mais dans des enjeux, par exemple, autour de l'environnement, de l'écologie, autour d'une critique d'un certain modèle économique, autour d'une résistance aussi face à une certaine domination. Donc la philosophie est moins visible aujourd'hui. Et je pense par contre qu'on en a grandement besoin. Il serait temps qu'elle rattrape son présent, aujourd'hui, en 2018.
Elle est peut-être moins visible, mais en tout cas, elle est audible hein, sur cette chaîne notamment, et aussi grâce à vous, Frédéric Worms.
Il faut essayer, ouais. Et puis il faut essayer de la faire entendre dans sa diversité, surtout.
On va essayer aujourd'hui à travers le prisme de mai 68. Vous avez dit le nœud philosophique qui s'articule à ce moment-là, c'est celui entre la structuralisme, les structures d'un côté, et la liberté de l'autre. On va entendre la voix de Louis Althusser, qui est un philosophe, membre du Parti communiste, à l'origine d'un renouvellement de la pensée marxiste, un grand éducateur de la génération maoïste, s'exprimer sur sa conception de l'homme, et vous verrez à quel point on entend justement la force des structures, alors qu'il parle du communisme, enfin plutôt qu'il parle de Marx.
Marx ne peut pas placer l'essence humaine aussi bien à l'origine qu'à la fin de l'histoire, ni à chacun des moments de son développement. Mais Marx considère que ce qui caractérise les pouvoirs effectifs de l'homme à une époque déterminée est fonction non pas d'une essence de l'homme, mais des conditions dans lesquelles se déroule l'activité humaine. Marx écrit ceci, « Ma méthode analytique ne part pas de l'homme, mais de la période sociale économiquement donnée. » Autrement dit, l'idée profonde de Marx, c'est que, pour pénétrer ce qui peut constituer à un moment déterminé, ce qu'on peut appeler, sous bien des réserves, l'essence de l'homme, il faut passer par le détour de la structure qui constitue l'essence même d'une formation économique donnée à un moment historique donné. Autrement dit, il n'y a pas d'accès direct de l'homme à l'homme, il n'y a pas d'accès direct de la réflexion philosophique à l'homme. L'accès de la réflexion philosophique à l'homme passe nécessairement par l'étude de la structure d'une période historique donnée.
Vous écoutez France Culture, les chemins de la philosophie. Nous parlons de mai 68 aujourd'hui, mai 68 ou 68 années philosophiques. Vous venez d'entendre la voix de Louis Althusser, dont je précise que sur les murs de l'ENS en mai 68, donc, se trouvait un slogan, un graffiti, Althusser à rien. Vous connaissiez ça, Frédéric Worms ?
Oui, mais il y a eu malheureusement, après l'événement tragique qui a marqué la fin de la vie d'Althusser, il y a eu des slogans, des jeux de mots un petit peu moins drôles quand Althusser, dans une crise de démence, a étranglé son épouse dans les locaux de l'école normale. Il y avait des blagues un petit peu moins drôles avec
ça. Voilà, c'était au moment de 68. Hein,
là, c'était avant. Althusser à rien,
ce qui est plutôt cocasse. Alors, comment on explique la conciliation entre, d'un côté, le communisme, le marxisme d'Althusser, et de l'autre, l'appel à une forme de changement, si ce n'est de révolution, si tout est déterminé par des structures, quels moyens d'action avons-nous en tant qu'individus pour faire changer les choses ?
Mais alors justement, ce qui est amusant dans le jeu de mots que vous venez de citer, dont je ne me souvenais pas, c'est qu'il y a une sorte d'ironie des révolutionnaires de mai 68, des étudiants, Althusser à rien, ça veut dire aussi quelque chose d'assez profond, c'est-à-dire à la fois la présence d'Althusser dans la conscience des étudiants, donc il était là quand même, si on fait un jeu de mots avec lui, c'est qu'il est déjà une référence, et en même temps qu'il est critiqué, il est là parce qu'il représente une certaine, une certaine dignité philosophique, théorique du marxisme, le marxisme comme philosophie, comme explication du monde, explication de la conscience historique des hommes par des structures économiques sous-jacentes. Et en même temps, Althusser à rien, ça veut peut-être dire aussi, dans l'esprit des étudiants qui mettaient ça sur les murs, ça veut aussi dire, écoute, Althusser, il sert à comprendre. Mais pour agir, il faut quand même se faire confiance à soi-même comme sujet, comme liberté. Il ne faut pas seulement essayer d'expliquer le monde, mais de le transformer, comme disait Marx, et finalement se lancer avec une certaine forme d'inconscience, de non-savoir, comme disait Sartre. Sartre, justement, par opposition à Althusser, a essayé de concilier le savoir théorique et le non-savoir existentiel. Le sujet agit dans l'inconscience de ce qu'il fait, et ce non-savoir qui est l'existence, qui est Kierkegaard, au fond, le choix un peu inconscient de ses forces, ce non-savoir est la force agissante de l'histoire, en réalité. Si on cherche à tout expliquer, si on attend de tout expliquer, peut-être on fera confiance à des structures, précisément. Et il y avait des individus, des étudiants qui critiquaient, derrière Althusser, le Parti communiste, qui lui planifiait, au fond, la révolution, attendait aussi les ordres peut-être d'autres grandes structures communistes dans le monde. Donc il y avait des tensions théoriques, le structuralisme et puis la liberté, qui pouvaient refléter des conflits politiques, c'est-à-dire le parti et puis les mouvements qui le contestaient. Donc au fond, Althusser à rien, c'est pas si anodin, c'est pas si insignifiant que ça en a l'air.
Quel a été son rôle pendant mai 68 ?
Je pense qu'il s'est tenu un peu en retrait. Il était un peu tenu par sa fidélité au Parti communiste. Il y a aussi ce rapport à l'engagement, à différentes formes d'engagement politique à l'époque. Sans doute pris de court par les événements. Et en même temps, comme on vient de le voir aussi, une référence importante déjà, son livre « Pour Marx » est paru en 65. C'est un recueil d'études très important. Il était en train de travailler avec ses étudiants à une grande lecture du Capital. Et au fond, l'idée qu'il faut, derrière les désirs conscients, derrière la société de consommation qui émergeait à l'époque, trouver véritablement les structures qui nous dominent, essayer de démasquer des pouvoirs qui nous dominent inconsciemment. Cette idée-là qu'il partage avec Foucault, qu'il partage même avec Sartre, elle est fondamentale à l'époque. Mmh. C'est quand même une révolution, des événements qui se basent sur un diagnostic critique. Le mot d'ordre de mai 68, c'est la critique. Et là, la théorie d'Althusser, le mot théorie est très lourd chez Althusser, vient nourrir ce geste, cette impulsion critique.
Évidemment, on se demande quel rôle ces philosophes peuvent avoir de manière directe sur l'événement mai 68. Est-ce que le temps d'accuser le coup et même l'accuser réception de cette crise au sein de la pensée, celle-ci doit maturer, ça prend de longues années. Est-ce que au moment de mai 68, certains philosophes dont on parle aujourd'hui, dont on va parler, ont été directement utiles et actifs?
Utile et actif, on a l'image de Sartre vendant la cause du peuple.
Avec Simone de Beauvoir.
Sartre et Simone de Beauvoir, Sartre à Billancourt.
Parce qu'on interroge ici le rôle même de la philosophie à ce moment-là, en cas de crise.
Voilà, et puis il faut rappeler aussi les gestes tout de suite, les discussions critiques, les discussions polémiques. Je pense qu'effectivement, ça ne veut pas dire qu'ils ont produit l'événement, mais qu'il y a une interprétation de l'événement qui permet de lui donner un sens, de le comprendre, de le discuter, qui fait qu'il n'est pas un fait brut et tout à fait opaque, y compris dans les polémiques. Et encore une fois, il faut distinguer deux sortes de polémiques. Il y a par exemple la polémique entre Sartre et Aron, qui touche au fer rouge, là, qui brûle vraiment, qui prend incandescence. En 68, c'est le moment de la rupture irréversible, presque irréversible. C'est-à-dire Aron qui critique les événements, qui pense que c'est une illusion, que c'est la révolution introuvable, comme il va dire très très vite, il va écrire à chaud. Et puis Sartre, au contraire, qui pense que c'est la liberté qui reprend le mouvement de l'histoire, qui est à la fois un démenti au structuralisme théorique, et puis évidemment un démenti aussi au consentement, à l'oppression économique, coloniale, impérialiste qu'il critique à ce moment-là. Donc cette polémique frontale, Sartre qui critique Aron d'être resté dans le système, d'être resté à la Sorbonne, Aron qui fait partie des mandarins critiqué par les étudiants. Il y a aussi ce choix personnel, universitaire. Sartre c'est Saint-Germain-des-Prés, Aron c'est la Sorbonne. Incarné en quelque sorte avec le Figaro, donc il y a des conflits très violents externes comme ça, et puis il y a ces polémiques internes au marxisme, au structuralisme lui-même, qui font que je pense mai 68 a été instantanément commenté, discuté, théorisé, polémisé, et que au fond c'est une des spécificités en France des événements de cette année-là, et ça fait la force de l'événement. Je pense qu'il n'y a pas d'événement pur, et il faut pas forcément attendre que les têtes tombent, attendre que la terre brûle. Faut discuter à chaud pour essayer de pluraliser l'événement, de ne pas être pris dans quelque chose d'opaque et de destructeur.
Ça veut dire qu'il n'y a pas d'événement pur, c'est-à-dire
Il y a toujours...
Tout s'annonce en amont à quiconque sait le diagnostiquer à temps.
Un événement pour les êtres humains, c'est un sens. Il faut comprendre ce qui se passe. Et les êtres humains ne sont pas d'accord. Et l'interprétation fait partie de l'événement. Un événement historique, ce n'est pas un coup de tonnerre. C'est quelque chose qu'il faut comprendre, qu'il faut interpréter. Dès que quelqu'un impose un sens à l'événement, un sens unique de l'histoire, je pense qu'on est dans la dictature, dans la tyrannie. Il ne faut pas, à mon avis, dissocier l'interprétation de l'événement lui-même. Aujourd'hui, il peut y avoir des catastrophes écologiques, il peut y avoir des dictatures qui reviennent en Europe. Nous devons en parler et discuter pour ne nous laisser prendre ni par la panique, ni par l'enthousiasme. Aujourd'hui, ce serait plutôt la panique. Dans le moment 2018, il y a beaucoup de gens qui croient à la catastrophe. En mai 68, on croyait à la révolution, au grand soir. Je pense qu'il faut se laisser saisir directement par aucun de ces grands mots et essayer de comprendre ce qui se passe.
Essayer de comprendre ce qui se passe, c'est ce qu'essaye de faire Sartre à sa façon. Alors d'abord, en 1966, dans un texte prononcé, hein, une conférence d'ailleurs qui s'appelle « Plaidoyer pour les intellectuels », dans lequel il revient sur la définition de l'intellectuel en cas de crise, d'événement politique. Et puis ensuite, vous l'entendrez se confronter directement aux étudiants de la Sorbonne, en s'adressant à eux, et vous verrez à quel point ce qu'il dit dans son texte, le certain rapport 1 à la bourgeoisie et 2 à la liberté, eh bien, est repris quasiment mot pour mot dans son intervention orale face aux étudiants.
C'est ça le grand intellectuel français, Adèle Van Rett, c'est-à-dire c'est celui qui à la fois théorise et en même temps s'engage. Et ce qu'on a un peu perdu aujourd'hui, c'est le lien entre l'engagement et la pensée. C'est-à-dire,
un Jean-Paul Sartre contemporain, c'est ça
Jean-Paul
que vous aimeriez
Sartre,
voir
c'est-à-dire qui à la fois faire monter l'événement à ses principes philosophiques à lui, essaye de les démontrer, d'argumenter, pas seulement dans l'opinion mais dans la démonstration, et puis en même temps, qui s'engage avec ça dans l'histoire.
On l'écoute.
Allez.
Jean-Paul Sartre, le texte, puis l'intervention.
L'erreur des philosophes a été de croire que l'on pouvait directement appliquer la méthode universelle et analytique à la société où l'on vit, alors que justement, ils y vivaient et qu'elle les conditionnait historiquement en sorte que les préjugés de son idéologie se glissaient dans leurs recherches positives et leur volonté même de les combattre. La raison de cette erreur est claire. Ils étaient des intellectuels organiques, travaillant pour la classe même qui les avait produits, et leur universalité n'était autre que la fausse universalité de la classe bourgeoise qui se prenait pour la classe universelle. Aussi, quand ils cherchaient l'homme, ils n'atteignaient que le bourgeois. La véritable recherche intellectuelle, si elle veut délivrer la vérité des mythes qui l'obscurcissent, implique un passage de l'enquête par la singularité de l'enquêteur. L'intellectuel, sans cesser par ses travaux de technicien du savoir, par son salaire et par son niveau de vie, de se désigner comme petit bourgeois sélectionné, doit combattre sa classe, qui, sous l'influence de la classe dominante, reproduit en lui nécessairement une idéologie bourgeoise, des pensées et des sentiments petit bourgeois. L'intellectuel est donc un technicien de l'universel qui s'aperçoit que, dans son domaine propre, l'universalité n'existe pas toute faite, qu'elle est perpétuellement à faire.
Je ne suis pas ici en tant que politicien, mais en tant qu'intellectuel solidaire de vous.
Comment prévois-tu la société qui se prépare actuellement, cette société ayant déjà dépassé le cadre étudiant?
Je pense que il ne faut pas prévoir. À ce degré, ce serait de la prophétie. Il s'agit simplement de voir ce qui est en train de se faire. Et ce qui est en train de se faire, à mon avis, c'est une nouvelle conception d'une société socialiste qui serait basée sur la pleine démocratie. Autrement dit, une liaison du socialisme et de la liberté. C'est ça qui est en train de se chercher. Est-ce que cela peut, c'est ça que vous faites en ce moment, ce que j'admire chez vous, au fond, c'est votre liberté et votre autodiscipline. Je puis, par exemple, et non, écoutez, vous étiez très embêtant au début. Et puis, depuis un moment, vous vous êtes vous-même fait votre discipline. Et vraiment, on pourrait croire qu'il y a un certain ordre aussi. Vous êtes à 90% des fils de bourgeois. Mais, en même temps, cette liaison de ça avec le divorce complet avec la classe bourgeoise et la recherche de l'égalité avec les travailleurs, ce sont ces deux choses que je trouve essentielles dans votre cas.
Sartre s'adresse aux étudiants, c'était à la Sorbonne en le 1er juin 1968. On aurait envie de l'entendre aujourd'hui s'adresser aux étudiants et leur dire la même chose pour voir la réaction. Il leur dit quand même, mais vous êtes des petits bourgeois, je vous admire, mais vous êtes des petits bourgeois qui avez réussi à vous retourner un peu contre votre classe et surtout, vous avez accédé à l'autodiscipline, terme qui fait hurler les étudiants, mais pour lui, c'est une qualité, Frédéric Worms.
C'est vrai que cette conjonction des deux textes qu'on vient d'entendre, l'un de Sartre lu par un acteur et l'autre l'intervention de Sartre lui-même à la Sorbonne devant des étudiants, est absolument sidérante et très cohérente. C'est
très
ça
cohérente,
qui est très frappant, c'est
frappe,
ce qu'on disait. C'est-à-dire il a une pensée très précise de ce qu'il faut faire à ce moment-là. C'est sa théorie finalement des intellectuels qui a évolué. Au fond, mais qui ne s'est jamais totalement transformé. L'intellectuel, c'est toujours la liberté qui cherche à donner un sens au monde et à le transformer dans le sens de la liberté. Mais en même temps, il n'y a pas de liberté pure. Il l'avait déjà dit en 1943. On est toujours dans une situation, il avait dit, dans un corps, dans un monde. Mais le marxisme est venu lui apprendre que cette situation va encore plus loin qu'on ne croit, que nous sommes déterminés par des situations historiques, sociales, dont il faut prendre conscience si on veut les transformer. Et c'est pourquoi, tout à coup, la liberté doit prendre en compte sa propre factualité concrète de la liberté de tel individu à tel moment. Et donc Sartre dit, moi je suis un petit bourgeois, je n'accède pas directement, a-t-il dit, à l'universalité, je dois y accéder en comprenant d'où je parle, comme on disait justement en 68, d'où ça parle, disait Lacan même dans les mêmes années, hein, dans la psychanalyse, mais je suis capable de dépasser cette situation. Donc le fait d'être un petit bourgeois, comme il dit, n'empêche pas que je puisse viser l'universel, à condition de prendre conscience... Ah oui, il dit l'universel.
Oui, mais
il l'a dit,
qu'est-ce que ça veut dire?
Ça veut dire travailler pour la liberté de tous, en comprenant que je ne peux pas y accéder directement, mais en critiquant la situation dans laquelle je suis pris, mais que je peux penser comme aliénante pour moi et pour les autres, et chercher à transformer.
Mais ça, c'est pas Marx dans le texte, pour le coup. Ça, c'est la lecture de Marx par Sartre, parce que le terme de liberté n'est pas comme tel schéma. Marx parle de libération, pas d'essence libre de l'homme.
Voilà, mais quand Sartre dit « nous sommes libres, mais en même temps, il faut nous libérer », c'est-à-dire « nous sommes libres, mais en même temps, nous sommes pris dans des situations d'aliénation », ça veut dire que la liberté est à faire. La liberté est une essence pour Sartre, elle le reste jusqu'au bout.
Et pas pour Marx.
Je suis capable de nier le monde, capable de le dépasser, c'est l'imaginaire dont on parlait, mais en même temps, je ne le suis pas abstraitement, je suis pris dans une société concrète. Alors ça a donné en 68 aussi les pires des choses, quand il dit aux étudiants « vous êtes des petits bourgeois, et finalement, votre autodiscipline le montre assez bien », ça a pu donner aussi ce qu'on a appelé l'autocritique dans les années 60. C'est-à-dire, voilà, je suis libre, je suis révolutionnaire, mais en même temps, je suis bourgeois et je dois m'autocritiquer. En Chine, la révolution culturelle, un certain maoïsme a été très très loin dans la négation de soi, dans la destruction d'une identité. Pour Sartre, c'est pas du tout ça. Sartre dit, voilà, vous êtes des petits bourgeois, mais vous êtes libres. Vous avez rompu avec une certaine aliénation et vous êtes aussi capable de rencontrer la liberté des autres. Et c'est ce mouvement de libération sociale. Socialisme et liberté, c'est en même temps situation et liberté. C'est-à-dire prendre conscience que la liberté est prise dans des conditions sociales et peut les améliorer, et en même temps que cette amélioration passe par la liberté, qu'il n'y a pas de transformation qui nie la liberté. Alors, du coup, je pense qu'il nous donne à la fois une philosophie critique qui peut éviter les excès de l'autocritique, c'est-à-dire la négation, l'aveu obligé devant des structures qui deviennent totalitaires, l'aveu de sa situation. Au fond, c'est à chacun de dépasser sa situation librement. Si on imposait le dépassement historique de soi dans une direction définie par un parti, on ne serait plus sartrien, on serait dans le totalitarisme. Il y a cette ligne de crête qui est celle de socialisme et liberté. Socialisme et liberté, c'était aussi...
Ce que Camus lui a reproché d'ailleurs, là pour le coup, c'est un sujet de discorde entre les deux.
Camus, dans les années précédentes, avait reproché à Sartre, effectivement, dans les années 50, au moment très très dur de la guerre froide, de sacrifier la liberté au nom de la révolution, au nom du socialisme, et surtout de sacrifier la justice, la liberté des autres.
C'est ça. Sartre co-signe le 10 mai dans Le Monde un manifeste qui soutient les revendications étudiantes. Il écrit « La solidarité que nous affirmons ici avec le mouvement étudiant dans le monde est d'abord une réponse aux mensonges par lesquels toutes les institutions et les formations politiques et tous les organes de presse et de communication cherchent depuis des mois à altérer ce mouvement, à en pervertir le sens ou même à tenter de le rendre dérisoire ». Non seulement il co-signe cette tribune, mais il va aussi manifester de manière explicite son soutien à la classe ouvrière. Il va en appeler à la fusion des intellectuels et de la classe ouvrière. C'est dire combien il essaye d'être sur tous les fronts.
C'est ce que vous demandiez aussi tout à l'heure. Est-ce que les philosophes ont agi sur l'événement? Vous voyez bien qu'encore aujourd'hui, finalement, l'un des grands mots par lesquels on caractérise 68, peut-être l'un des mythes de 68 qu'on cherche à tort ou à raison à retrouver en 2018, c'est cette question de la convergence.
Convergence des luttes,
convergence des ouvriers et des étudiants, convergence des ouvriers, des étudiants et des intellectuels. Et ce qu'on voit à travers ce manifeste, c'est que Sartre essayait de le théoriser sur le moment et que finalement le rôle de la philosophie, c'est aussi de mettre des mots et parfois des tensions, des problèmes, des intentions, des idéaux derrière ce qui est les événements. Une autre chose m'a frappé dans ce que dit Sartre aux étudiants, ouais. On a entendu tout à l'heure, il y a un étudiant qui demande comment est-ce que vous voyez la société de l'avenir, comment est-ce que vous la prévoyez.
Et lui, il dit je ne prévois pas, sinon je serais prophète.
Prévoir, ce serait définir le but, ce serait retomber dans une science. Et alors que la liberté, justement, elle critique et elle avance et elle ne produit pas forcément un résultat défini à l'avance. Donc il faut voir ce qui se passe. Mais voir ce qui se passe, ça ne veut pas dire simplement être spectateur. Mmh. Ça veut dire aussi discerner des forces, discerner le moment où la liberté accomplit son rôle critique, le moment où elle peut se trahir elle-même. Être trahi par les commentateurs, soit ceux qui l'abandonnent a priori, soit ceux qui veulent lui fixer des buts. Et donc, rester sur cette ligne de crête, je ne dis pas que Sartre a toujours réussi, mais je pense qu'il a assez bien défini le
mais
problème.
Mais ça veut dire que ce n'est pas le rôle du philosophe que de proposer un projet politique.
Projet, pas au sens d'une norme absolue. Au fond, le projet en tant que visée d'une société d'être libre, hein, pleinement humaine, où les êtres libres se reconnaissent les uns les autres. En effet, il faut définir un projet. Mais Sartre a toujours été cohérent au sens où pour lui, la réalisation totale de la liberté est impossible. Mmh. Il disait déjà en 43, dans L'être et le néant, l'homme est une passion inutile. Si nous étions totalement réalisés, nous ne serions plus des êtres humains, parce que la structure de la liberté, c'est le dépassement. Et je pense qu'il l'a toujours pensé, que la révolution totale, la visée, c'est toujours la totalité. Mais c'est une totalité impossible parce qu'il y a la liberté. Et par exemple, sur cette saisie du petit bourgeois, Sartre en 68, il n'est pas du tout lancé dans la révolution, c'est pour ça que ça le prend de court. Après, il s'y met. Mais en fait, il est en train d'écrire un livre de 3000 pages qui s'appelle « L'idiot de la famille », qui est une biographie marxiste et existentielle de Flaubert. Et il cherche à saisir Flaubert comme incarnation de toute la société du 19e siècle, incarnation inconsciente du petit bourgeois qui devient écrivain. Et il cherche à totaliser Flaubert, 3000 pages, essayer d'expliquer Flaubert intégralement. Il sait que c'est impossible. Il se lance dedans. Et évidemment, c'est inachevé. C'est bon. Donc la totalité est quelque chose qu'on vise, mais qu'on doit savoir... on sait qu'on doit savoir qu'on ne l'atteindra jamais entièrement.
Dans la tribune qu'il écrit, dont j'ai lu un extrait, vous dites voilà, la totalité, on ne l'atteindra pas. Il est attiré par cette totalité qui est celle du rejet, du refus, et de l'État et des organes de presse. Hein. Il dit bien, d'abord une réponse aux mensonges, le mouvement étudiant est une réponse aux mensonges, par lesquels toutes les institutions et les formations politiques et tous les organes de presse et de communication cherchent depuis des mois à altérer ce mouvement. Ça, on n'est pas dans la nuance, là.
Oui, il y a la saisie d'une adversité, il y a une lutte politique. La politique, c'est évidemment, Sartre est engagé clairement dans un face-à-face frontal. Il est capable, à tort ou à raison, peut-être à tort, de dire que la société dans laquelle nous vivons est intégralement non démocratique. Et d'un autre côté, expression très forte qu'on a entendue aussi dans son discours, il vise la pleine démocratie.
Donc
donc il est capable d'opposer massivement, c'est vrai, une totalité et une autre. Mais en pratique, la pleine démocratie ne sera jamais totalement atteinte, c'est impossible pour lui. C'est une visée qui sert à démontrer, par contre, des mécanismes d'aliénation qui sont en effet... totalitaire. On est encore dans une société en partie coloniale à l'extérieur, très largement injuste à l'intérieur. Et donc, en un certain sens, il radicalise l'opposition. Peut-être qu'aujourd'hui, on aurait tendance à dire non seulement nous n'atteignons pas la totalité, mais nous ne pouvons plus critiquer toute notre société. La difficulté où nous sommes en 2018, c'est d'essayer de faire des critiques à la fois radicales et non totales. Parce que nous avons renoncé à l'idée d'une révolution totale. Nous pensons que dans nos sociétés, il y a un peu de démocratie. Nous ne sommes pas en 2018 dans une pleine démocratie, mais nous ne sommes pas non plus dans une pleine dictature. Et c'est beaucoup plus difficile pour nous aujourd'hui où nous essayons d'avoir des critiques d'injustice profonde, par exemple envers les femmes, envers le racisme qui revient, certaines dictatures qui reviennent, et d'essayer de critiquer des points radicaux d'injustice en ayant renoncé au rêve d'une révolution totale et en essayant de garder ce qui est fragile et important aussi dans nos vies aujourd'hui. Donc c'est un peu plus difficile pour nous aujourd'hui. À l'époque, on pouvait encore dire pleine démocratie d'un côté, pleine dictature de l'autre. Mais
on croit moins à la révolution aujourd'hui, donc ça rend la critique plus difficile, paradoxalement.
Je crois qu'il faut garder des points de critique radicale aujourd'hui aussi. Peut-être pas l'avenir radieux, la révolution totale, mais si on renonce à dénoncer des injustices radicales, on oublie mai 68 et la force de mai 68 et du geste sartrien. Il y a encore de la pleine liberté d'un côté et des injustices complètes de l'autre.
Le 10 janvier 1968, à Interactualité, au micro de la chaîne, se trouve un philosophe à qui l'on demande de définir la tâche du philosophe. C'est Michel Foucault. Écoutez sa réponse.
La philosophie de Hegel à Sartre a tout de même été essentiellement une entreprise de totalisation. Sinon du monde, sinon du savoir, du moins de l'expérience humaine. Et je dirais que peut-être, s'il y a maintenant une activité philosophique autonome, eh bien, on pourrait peut-être la définir de la manière suivante, une activité de diagnostic. Diagnostiquer le présent, dire en quoi notre présent est absolument différent de tout ce qui n'est pas lui, c'est-à-dire de notre passé, c'est peut-être à cette tâche-là qu'est assigné maintenant le philosophe.
Alors, comment définissez-vous votre travail ?
Mon travail à moi ? Vous savez, c'est un travail qui est très limité. C'est en gros ceci. Essayer de retrouver dans l'histoire de la science, des connaissances et du savoir humain quelque chose qui en serait comme l'inconscient. L'histoire des connaissances n'obéit pas simplement à la loi générale du progrès de la raison. Ce n'est pas la conscience humaine, ce n'est pas la raison humaine qui est en quelque sorte détentrice des lois de son histoire. Il y a au-dessous de ce que la science connaît d'elle-même quelque chose qu'elle ne connaît pas, et son histoire, son devenir, ses épisodes, ses accidents obéissent à un certain nombre de lois et de déterminations. Ces lois et ces déterminations, c'est celles-là que j'ai essayé de mettre au jour.
Si la révolution aura lieu en philosophie, ce sera sur France Culture, les chemins de la philosophie. Nous parlons de mai 68 cette semaine, et du rôle des philosophes dans ce mois-ci. Là, on était un peu avant, en janvier 68. Frédéric Worms, vous avez parlé de Sartre et de son rôle, son engagement au sein de 68. Mais sans le savoir, depuis le début de cette émission, ce que vous avez dit sur le rôle des philosophes ressemble exactement à ce que dit Foucault dans cette archive.
Et oui, parce que Michel Foucault, en janvier 68, qui est pourtant beaucoup plus jeune que Sartre, hein, c'est pas la même génération, il a 20 ans de moins ou moins, Michel Foucault est déjà une star. Ce qui est très frappant
aussi. Il est en Tunisie pourtant à ce moment-là.
Oui, il est en Tunisie, il a beaucoup bougé, il a été en Pologne au début de sa carrière où il a écrit son histoire de la folie, il a été en Suède, il a été en Tunisie à ce moment-là. Il s'est tenu un peu à l'écart, mais il est déjà une star du structuralisme, entre guillemets, parce que lui-même a toujours refusé cette étiquette. Mais néanmoins, on oublie qu'avant 68, il y a eu cette fameuse année 66 également. Et l'année 66, c'est l'année d'un best-seller inattendu, c'est l'année du best-seller qui a été le livre de Michel Foucault, Les mots et les choses, une archéologie des sciences humaines. Et on voit bien que en janvier 68, déjà, les gens s'adressent à lui pour comprendre ce qui se passe ou qui va se passer. Il y a un frémissement, puisqu'ils viennent déjà le chercher avant même les événements, en quelque sorte. Et ce que dit Foucault, oui, vous avez raison, est tout à fait proche de ce que pensent les structuralistes. C'est-à-dire que notre conscience humaine ne peut pas être atteinte directement. Alors que Sartre, c'est l'humanisme. L'existentialisme est un humanisme. Ça passe par l'homme. L'homme reste le grand mot de Jean-Paul Sartre. Pour Michel Foucault, c'est la mort de l'homme, à la fin des mots et les choses. Et pourquoi ? Parce que l'homme est un sujet qui se croit libre, mais en réalité, il est produit, en tout cas tout ce qu'il dit s'explique par des structures profondes. La nouveauté de Michel Foucault, c'est d'avoir inscrit cette structure dans le savoir lui-même, dans les énoncés théoriques, dans le discours, et qui font système. Par exemple, entre les discours psychiatriques, les discours pénaux, les discours des savants, il y a un lien beaucoup plus profond que ce que pensent les philosophes qui commentent. C'est pour ça qu'il dit qu'il n'est pas philosophe. Ce qu'il fait, c'est relier les énoncés qui n'ont l'air de rien, les archives des prisons, les archives des hôpitaux, et d'essayer de comprendre l'état du savoir d'une époque. Et c'est ça qui explique ce que les philosophes croient penser tout seuls dans leur bureau.
Mais il y a une action militante aussi, Foucault, à ce moment-là, au sein du groupe Information des prisons, notamment.
C'est en train de se faire. En réalité, ce sera plutôt à la suite des événements de 68. Michel Foucault est connu d'abord pour précisément cette radicalité d'un geste théorique, des mots et les choses, d'un rapport à la littérature, au langage assez radical, d'avoir théorisé cette illusion de l'homme, du sujet occidental, du sujet bourgeois sur lui-même, et d'avoir dénoncé cette aliénation et produit une sorte d'alternative radicale. C'est ensuite que cette structure théorique, dans les hôpitaux, dans les prisons, est aussi dénoncée en pratique. Mmh. C'est-à-dire, n'est pas seulement dans les discours des médecins, mais dans le pouvoir médical, pas seulement dans le discours des politiques pénales, mais dans les pratiques des prisons, et que finalement, on peut mettre en œuvre la critique théorique en allant voir comment les systèmes prennent forme dans la société concrète.
Est-ce ce qu'il appelle le rôle de l'intellectuel spécifique ? L'expression est de lui.
Oui, parce qu'au fond, l'intellectuel sartrien, c'est l'intellectuel qui théorise la liberté, et en général, la liberté comme puissance d'universel, et qui du coup va produire une visée totale de la transformation du monde par la liberté. Pour Foucault, c'est domaine par domaine, où on peut dégager des structures de pouvoir et essayer de déplacer des enjeux qui n'ont l'air de rien, mais qui sont des aliénations profondes. Donc il faut être un intellectuel spécifique, par exemple en psychiatrie, par exemple pour les prisons. Et donc l'intellectuel, c'est celui qui va voir sur le terrain ce qui se passe et qui ne prétend pas non plus parler à la place des autres. Il y a un grand dialogue
c'est
magnifique.
C'est tout l'enjeu, oui.
Voilà. Un grand dialogue entre Deleuze et Foucault sur le rôle de l'intellectuel. La chose qu'il reproche à Sartre, c'est vous parler au nom de ceux que vous voulez libérer. Et nous, on va écouter le discours des prisonniers, le discours des malades mentaux, ceux qui arrivent à parler de leur existence opprimée, le discours des hommes infâmes, comme disait Foucault. Une libération de la parole des autres. Et donc aller écouter ce que disent les prisonniers, qui disent la vérité de notre monde, faire saisir les rapports de pouvoir, à même le langage. Et donc la révolution totale, pour eux, c'est une illusion aussi. C'est plutôt des critiques locales, des actions locales. Plus tard, les grands mouvements qui s'inspireront de Michel Foucault, qui organisent aujourd'hui notre époque, c'est par exemple le mouvement des patients du sida, qui au lieu de dire comme à la Sartre, finalement, il y a une injustice, il faut refaire la révolution, les mouvements de patients du sida, ils réclamaient des essais médicaux plus rapides, d'une prise en charge plus efficace des gens qui mouraient. Et c'est cette action locale contre un pouvoir précis qui est inspirée de Michel Foucault.
Cette idée de dénoncer ceux qui parlent pour et non pas ceux qui parlent avec, elle est passionnante, elle est redoutable. Parce qu'en effet, comment en tant qu'intellectuel, puisque c'est le sujet de l'émission, et en tant que philosophe, prendre la parole sans donner l'impression de se substituer aux gens avec lesquels nous voudrions parler, que ce soit les étudiants, les ouvriers ou n'importe quelle classe sociale en réalité. C'est là tout l'enjeu de la parole du philosophe.
Le philosophe, finalement, l'intellectuel, est toujours pris entre deux dangers. Celui de parler à la place des autres et celui d'être aussi, de s'interdire de parler, d'être fasciné par une parole spontanée ou la parole qui dirait toute seule la vérité. Et d'une certaine façon, ces deux risques sont aussi graves l'un que l'autre. Je parlais tout à l'heure des dangers de l'autocritique radicale en mai 68. Il ne faut pas oublier une certaine violence révolutionnaire aussi qui, au nom de la critique de soi, pouvait détruire les sujets. Au nom de la fascination pour une parole brute, pouvait aussi interdire le geste critique. Pour moi, la démocratie, elle est aussi dans une forme de critique de toute parole. Toute parole peut devenir une domination. La parole, même des opprimés, peut devenir oppressive. la parole qu'on veut libérer peut elle-même devenir une parole tyrannique. Et donc, il ne faut pas s'interdire la parole critique. Je pense que l'enjeu aujourd'hui, c'est d'avoir, Sartre lui-même disait d'ailleurs, une critique de la critique. C'est-à-dire quand la critique oublie elle-même ses principes, qui doivent rester la liberté, la justice, le refus de l'aliénation. Et c'est pourquoi, effectivement, on ne peut pas parler à la place des autres, mais si les autres, inversement, disent des choses injustes ou des choses absurdes, il ne faut pas s'interdire de leur répondre. Je ne sais pas ce que vous en pensez.
Mais je suis d'accord avec vous, mais ce n'est vraiment pas le sujet, en tout cas, de donner mon opinion là-dessus. Mais c'est vrai, et d'ailleurs, c'est pour ça que je suis contente que vous soyez venu en parler aujourd'hui à ce micro. On peut s'interroger sur les après mai 68. On a vu ce qui a conduit à mai 68 en philosophie. De quoi mai 68 a-t-il accouché, en réalité, philosophiquement parlant? Si on avance un tout petit peu dans le temps, on va aller jusqu'en 1976. C'est la naissance publique, médiatique, d'une certaine prise de parole de certains philosophes qu'on va appeler les nouveaux philosophes. Alors, quel lien avec ce dont on vient de parler aujourd'hui? Je vous propose qu'on écoute une minute d'intervention de Bernard-Henri Lévy qui parle de mai 68 et vous nous direz ensuite quelle est la filiation, ce fil invisible ou pas, qui relie mai 68 au nouveau philosophe Bernard-Henri Lévy, André Glucksmann, etc.
J'avais 20 ans en 68. Cela dit, j'étais pas dans la rue pour tout un tas de raisons. Je suis resté effectivement dans ma chambre. Et ça pour un tas de raisons. Bon, d'abord parce que j'avais le sentiment, comme ça sur l'événement, que contrairement à ce qu'on nous disait et ce dont on nous rebattait les oreilles, qu'il ne se passait à peu près rien de nouveau en 68. Et j'étais, comme ça, plus ou moins indigné par tout ce qu'on pouvait dire sur la libération du désir, sur ce qu'on pouvait dire, là, les murs ont la parole, et ainsi de suite. Je n'ai jamais eu le sentiment, pendant les événements de mai 68, que quelque chose de neuf, d'important, etc., se passait. J'avais le sentiment, comme ça, bon, parce que j'avais la tête un peu farcie d'histoire, que 68, c'était plutôt la dernière des grandes révoltes de rue, comme ça, du 19e et puis, bon, du 20e siècle, et que ça n'était en rien l'avènement d'un âge nouveau, la première révolution de type nouveau, et ainsi de suite. Et puis, il y avait une autre raison qui était plus forte, je crois encore, c'est que j'étais, à l'époque, comme je suis toujours, donc, pessimiste, comme ça, sur le destin des choses, le destin de l'histoire, etc., et que je ne voyais pas ce qui pouvait sortir de 68, et je ne croyais pas à cette espèce d'eschatologie optimiste, libératrice, etc., dont on nous parlait à l'époque. C'est-à-dire, je ne croyais pas, en gros, si vous voulez, au modèle révolutionnaire dont 68 était la dernière incarnation. Je ne croyais pas que quelque chose comme ce qui se passait à ce moment-là pouvait signifier une révolution au sens comme ça, où on croyait, où on continue de croire aujourd'hui.
En mai 68, Bernard-Henri Lévy était âgé de 20 ans, ici, donc il s'exprime un peu plus tard en 1976 dans l'émission Parti pris sur France Culture. Il fait part de son pessimisme et du fait qu'il ne croyait pas qu'une vraie révolution puisse avoir lieu. Est-ce qu'on peut dire que ce qu'on a appelé les nouveaux philosophes, à ce moment-là et puis ensuite, sont les enfants de la crise philosophique qui a eu lieu en mai 68, Frédéric Worms?
Alors, peut-être, mais au sens assez précis où les enfants tuent leur père, et au sens du parricide. Moi, ce que je pense dans mon hypothèse sur les moments philosophiques du XXe siècle, c'est que les nouveaux philosophes qui apparaissent en effet vers 76-77 font à la génération 68, celle des structuralistes et des autres, aussi des freudiens, des marxistes, des philosophes du désir et de la différence, ils leur font ce que ces structuralistes ont fait à Sartre, ont fait à la génération d'avant, c'est-à-dire le meurtre du père. Ce qu'on entend là, très clairement, je pense, c'est plutôt la fin du moment 68 que son effet. C'est plutôt le parricide que la filiation. C'est plutôt la rupture que la continuité. Et c'est assez instructif, finalement. Et ça rejoint une chose que je venais de dire, c'est-à-dire ce que dit Bernard-Henri Lévy, dans cet anti-totalitarisme qui le caractérisait à l'époque. C'est-à-dire, au fond, dire, voilà, bon, on critiquait une aliénation, mais d'un certain côté, la révolution était une illusion, en tout cas un danger, comportait son danger aussi.
Ce qui n'empêche pas d'agir, parce que c'est ce
qui n'empêche
pas
d'agir. Et finalement, les années fin des années 70, 80, c'est aussi le moment des droits de l'homme, le moment de l'état de droit, c'est-à-dire se tenir dans cette ligne critique. C'est vrai, moi je pense que nous sommes encore, nous, en un sens, les héritiers de cette critique du totalitarisme, de cette volonté de garder une boussole critique à cheval entre deux excès. Mais ça n'empêche pas qu'en mai 68, il y a eu des effets de libération. Le moment où je serais en désaccord, c'est de dire, c'est ce qu'on disait sur Sartre, peut-être qu'il ne faut plus viser la révolution totale, mais refuser des injustices totales, c'est encore possible, et accéder à des libérations réelles, c'est possible aussi. Mais de 68 à 76, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu aussi des vrais effets de libération dans l'université, dans le savoir. On n'a pas encore parlé de Deleuze, dont Différence et répétition est paru en 68. C'est peut-être le seul des grands livres de philosophie des années 60 qui paraît en 68 même. Et au début de Différence et répétition, il disait, la différence est dans l'air du temps, le surgissement de la liberté, du désir. Bon, Deleuze est aussi un des grands passeurs, un des grands penseurs de ces années 68. Et finalement,
on en parlera beaucoup jeudi prochain aussi, c'est pour ça que nous avions un peu insisté aujourd'hui, donc merci pour cette annonce.
Impossible de tout dire, mais disons, il y a une constellation et que vous allez déplier tout au long de la semaine. Et j'espère que tout le monde se reportera à ces textes et à ces discussions. Mais dans ce paysage, il y a eu quand même des effets de critique et des effets de libération qu'il ne faut pas négliger. Et je pense que notre situation aujourd'hui est l'héritière de ces multiples ruptures. Il y a eu la liberté sartrienne, il y a eu la reconnaissance de structures qui n'ont pas disparu, d'oppression. Et puis, maintenant, ce moment des droits de l'homme, il faut en garder à chaque fois quelque chose. Si on perd le geste critique aujourd'hui, la puissance d'une économie qui parle aussi un peu à travers nous. Prenons un autre exemple, Roland Barthes, dans les années 60, dans ses mythologies, il montre derrière le discours publicitaire un discours de manipulation, d'influence cachée. Il y a quand même, dans le langage, il y a aussi du pouvoir. Tout ça, nous devons le retrouver. Mais en même temps, garder une certaine boussole, je dirais, là aussi, de critique de la critique, mais sans oublier qu'il peut y avoir des vraies libérations. La libération sur tel ou tel point est encore possible.
Merci Frédéric Worms.
Merci beaucoup de m'avoir invité.
Lancer cet appel à la libération aujourd'hui à ce micro. Je rappelle qu'on peut lire de vous, enfin je le dis, la philosophie en France au XXe siècle, moment, et en effet vous y développez une pensée des moments, le moment 68, le moment structuraliste, etc. Ce qui est une manière de comprendre le XXe siècle en philosophie. Je renvoie tous les auditeurs à la lecture de ce livre publié chez Gallimard en folio essai. Et on se quitte avec une chanson d'un philosophe chansonnier, en tout cas c'est Béranger, Sous les pavés.
Y'en a marre des évasions de frimes, des grands espaces organisés, des vendeurs d'illusions subtiles qui font l'oubli à bon marché. Qu'est-ce qui reste à nous gens des villes avec nos corps atrophiés, nos grosses têtes sur nos coups graciles et nos pieds qui savent plus marcher? Ben, nous on a sous les pavés la plage. Faudrait seulement enlever les pavés.
Sur France Culture, les chemins de la philosophie, on n'a pas fini de chanter les pavés sous les pavés en philosophie. On se retrouvera demain pour la suite de cette semaine. Et puis, La Fabrique de l'Histoire, la série documentaire aussi, consacre leur programmation à mai 68. Et donc ce soir, Frédéric Worms, on vous entend avec Daniel Cohn-Bendit, Matière en pensée, ce sera à 22h15. Mais sur France Culture, il est 10h52 et 30 secondes, il est grand temps de retrouver le journal de la philosophie de Géraldine Mosna-Savoie.
On n'est pas là pour philosopher, Carpentier.
Quand même. Incroyable.
Bonjour Géraldine.
Bonjour Adèle, bonjour à toutes et à tous.
Pour votre journal de la philo, aujourd'hui, vous nous parlez d'un livre sur le cannibalisme. Quelle idée ?
Eh bien oui, c'est un livre dont vous avez peut-être déjà entendu parler ici ou ailleurs. Il est paru au PUF. C'est le livre de l'anthropologue Monder Kilani, Du goût de l'autre, fragment d'un discours cannibale. Le cannibalisme, le phénomène n'échappe pas aux philosophes, c'est pourquoi j'en parle. Mais j'en parle aussi tout simplement parce que, eh bien, je suis comme tout le monde. Le cannibalisme, ça me fascine. Pourquoi ? Eh bien, la question philosophique part bien de là, que recouvre cette fascination entre attraction et répulsion.
Quand le prisonnier aura été assommé, d'autres prendront ce pauvre corps, le fendront et le mettront soudainement en pièces. Or, toutes les pièces du corps, et même les tripes, sont bien nettoyées et mises incontinent sur les boucans, pendant que le tout cuit ainsi à leur mode, les vieilles femmes, qui ont un merveilleux appétit pour manger de la chair humaine, se rassemblent toutes auprès des boucans pour recueillir la graisse qui dégoutte le long des bâtons de ces grandes et hautes grilles de bois.
Mais c'est écœurant cet archive, c'est Nicolas Berger qui vous l'a conseillé ?
Non, c'est moi qui l'ai trouvé. Bah, bon appétit en même temps.
Oui, c'est ça. Ouais.
Ouais. Alors voilà, c'est d'ailleurs le genre de récit qu'on imagine quand on prononce le mot de cannibalisme, des cérémonies venues d'ailleurs, avec de la faim, du sang. Et pourtant, à bien y regarder, le cannibalisme dépasse largement ce genre de récits exotiques érigés au rang de faits. Il dépasse même largement les époques, les frontières, les peuples auxquels on l'a associé, des Scythes et Assyriens aux Jivaros d'Amazonie et aux Dayaks de Bornéo. Oui, si vous regardez bien, le cannibalisme est partout. Son sens plastique le permet, il renvoie tout à la fois aux conquêtes coloniales de Christophe Colomb, c'est la première fois que le mot apparaît, qu'à la mendication de la chair humaine, à l'autre monstrueux ou à la dévoration des siens, même ses parents. Et si vous regardez encore mieux, le cannibalisme traverse la culture, Moby Dick, Robinson Crusoe, le film récent de Julia Ducournau, Grave, Le Petit Chaperon Rouge, Sade, etc. J'en passe. Voici donc le cannibalisme renvoyé à un ailleurs, il ne cesse pourtant de hanter notre culture la plus proche.
Au moment où le mythe commence, le jaguar est un être affectueux qui a envie d'adopter une petite fille humaine et de l'élever comme si elle était sa fille, tandis qu'à la fin du mythe, au contraire, nous nous trouvons devant une scène de cannibalisme sur laquelle le mythe baisse le rideau avant même qu'elle n'ait débuté, car c'est évidemment un spectacle pour les narrateurs. Les Warao n'ont jamais été des cannibales eux-mêmes, mais il y avait des cannibales autour d'eux. Un spectacle plutôt désagréable.
Loin d'être une question de nature, un donné, un fait, on l'entend avec Lévi-Strauss qui rappelle le mythe narrant son apparition, le cannibalisme est bien plutôt une question de culture. Il trouve dans la fiction et la narration, les mots et les images, les contes et les constructions fantasmatiques, sa raison d'être. D'où ce paradoxe du cannibalisme, cette altérité, cette étrangeté. Eh bien, ce sont les nôtres, celles que l'on cultive dans nos imaginaires, celles sur laquelle Montaigne, Diderot, Bataille, Baudrillard, Freud ou Barthes ont réfléchi. Et c'est la thèse de Mondaire-Kilani dans son livre, à la fois réflexion sur l'anthropophagie et sur la méthode anthropologique, pas si éloigné que ça dans les termes, il souligne ce rapport toujours construit à l'autre, façonné et médiatisé par nos discours. Mais pourquoi alors le cannibalisme en particulier? Pourquoi le cannibalisme serait-il cet autre privilégié?
Et je bus, mâchais les lèvres et lampais comme un busard. Elle était en chaleur au point que ses dents étaient rivées dangereusement à mon gland. Je craignais que, parvenue comme elle l'était au comble de la frénésie, des larmes et de la passion, elle ne vînt à mordre à belles dents et à me le guillotiner. Je dus la chatouiller pour la forcer à desserrer les mâchoires. Ensuite, ça ne traîna pas de la belle ouvrage. Pas de larmes, pas de chichis amoureux, pas de promets-moi, dis, promets-moi, balance-moi sur la planche à baiser et vas-y, baise.
Ok. Oui, bah alors voilà, bonne programme. Encore, mais oui. Et si le cannibalisme ne faisait pas que hanter nos esprits, mais tous nos gestes, même les plus amoureux, et si nous étions, nous tous, des cannibales, quand on mange de la viande, quand on épie les autres, qu'on aimerait bouffer le monde, qu'on dévore des livres, ou alors avec son amant, sa maîtresse, comme Henry Miller, comme on l'a entendu dans cet extrait. Il y a quelque chose de foncièrement déconcertant avec le cannibale. Cet autre, en fait, ne mange pas quelqu'un d'autre, mais de la chair humaine. Il mange quelqu'un qui lui ressemble, et il le fait encore plus sien. Il l'ingère, le digère, l'incorpore. Voilà donc l'étrangeté, la vraie. Le cannibale est vu comme un autre alors qu'il reste dans le même, à manger les siens. Et il y a ici comme un aveu, c'est comme si un rapport à l'autre restait impossible, même pas pour partager un repas.
Eh bien, bon appétit à tous. Le livre, Géraldine, que vous nous conseillez de lire s'appelle...
Du goût de l'autre, fragment d'un discours cannibale, c'est de Mondaire qui l'a nié, je le recommande chaudement, matin, midi et soir, et c'est paru au Seuil.
En guise d'apéritif. Merci, votre chronique est à réécouter en ligne sur le site du journal de la philo. Merci à Isis Jourda qui a préparé cette émission avec Marianne Chassor, David Pargamin, Maud Markiewicz, Marie Aubert cette semaine, Géraldine Mosna-Savoie. Bien sûr, c'était Nicolas Berger à la réalisation aujourd'hui, Noam Morgenstern à la lecture des textes, YouTube Diego Aclopez à la prise de son. On se retrouve demain pour la suite de cette série sur mai 68. Demain, eh bien, ce sera la fête à l'usine, mais oui, en compagnie de la romancière Leslie Kaplan. D'ici là, pour écouter cette émission, rendez-vous sur le site de France Culture à la page des Chemins de la Philosophie pour la réécouter en ligne, mais aussi la télécharger, la podcaster pour l'écouter où vous voulez et quand vous voulez. Et restez à l'écoute toute cette semaine sur France Culture puisque nous proposons une programmation spéciale mai 68 depuis la Fabrique de l'Histoire à 9h05 tous les jours, animée par Emmanuel Laurentin, les Chemins de la Philosophie bien sûr. À 17h, la série documentaire de Perrine Kervran, propose aussi une série sur mai 68. Et samedi 28 et dimanche 29 avril, également, vous aurez une programmation spéciale mai 68.